représentation de la nation par ses élus, la volonté de donner à la France une constitution écrite qui s'imposerait à tous, même au roi, l'édification d'un nouvel état de droit à travers notamment le vote par l'Assemblée nationale de l'abolition des privilèges et ensuite de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors plusieurs des lieux qui témoignent de cette histoire existent toujours et relèvent aujourd'hui de la responsabilité de l'établissement public du musée et du domaine national de Versailles, qui n'est donc pas seulement gardien de la mémoire de l'ancien régime dans sa forme la plus sophistiquée sur le plan artistique et la plus élaborée sur le plan politique, celle qu'on a parfois désignée par l'expression de monarchie absolue, mais l'établissement public que je préside a également la garde de la mémoire de la révolution naissante dans notre pays. Alors ces lieux sont l'hôtel des menus plaisirs, où les États généraux ont été réunis le 5 octobre 1789 et où d'ailleurs le 17 juin, les députés du tiers État auxquels s'étaient joints quelques députés du clergé s'érigèrent en Assemblée nationale. Le deuxième de ces lieux, c'est la salle où nous nous trouvons, la salle du Jeu de Paume, où trois jours après le 17 juin, le 20 juin 1789, les mêmes députés du tiers État et quelques députés du clergé auxquels on avait refusé l'accès à l'hôtel des menus plaisirs se sont réunis et ont juré de ne se séparer que lorsqu'ils auraient donné une constitution à la France. C'est ce qu'on a appelé le serment du Jeu de Paume. Ce serment a eu lieu ici, a souvent été représenté par les artistes, dont David, qui s'était engagé dans la réalisation d'une grande fresque représentant le serment du Jeu de Paume, où on sent le souffle de l'histoire passer dans la salle, les fenêtres étaient ouvertes et les rideaux volaient à tout vent. C'est pour cette raison que j'ai souhaité que l'établissement public, donc en charge de ces lieux de mémoire, les assume, non seulement en les ouvrant à la visite des groupes, mais également les assume en provoquant, en prenant l'initiative chaque année de rencontres qui se poseraient la question ou des questions à propos de l'exercice de la démocratie aujourd'hui. Donc c'est dans ces conditions qu'a été décidée cette première édition des entretiens du Jeu de Paume. Pour mettre en œuvre ce projet, il m'a paru opportun d'associer l'établissement à l'université de tous les savoirs. Cette université, vous vous en souvenez peut-être, est née à l'occasion de la célébration de l'an 2000, dont la présidence m'avait été confiée avec beaucoup de patience par le gouvernement. Merci Catherine Tasca. Et cette célébration de l'an 2000 avait donné lieu à de très très nombreuses initiatives, souvent dans le domaine, disons, festif, dans le domaine également culturel, au sens classique du terme, un programme d'exposition très important, un programme également de festival très soutenu, mais il nous avait semblé important que cette célébration de l'an 2000 soit également une occasion pour procéder à un partage plus large du savoir et de la connaissance. C'est ainsi qu'est né ce projet un peu fou de balayer tous les champs du savoir à travers un programme de 366 conférences qui seraient proposées au public d'un bout à l'autre de l'année. L'idée avait été émise, encore valait-il la mettre en œuvre, lui donner du contenu, lui donner de la chair et l'organiser. C'est alors que j'ai fait appel au talent du professeur Yves Michaud, qui, je dois le dire, s'en est sorti, ce qui ne m'étonnait pas d'ailleurs, magistralement. Yves Michaud a su conduire ce projet avec beaucoup de sûreté, beaucoup de pertinence, et d'ailleurs très rapidement veillé avec l'équipe de l'Université de tous les savoirs, animée notamment par Catherine Lollès, donner à cette initiative un très très large retentissement à travers un programme de retransmission radiophonique, Radio France, à travers France Culture s'était associé à cette action, à travers un programme d'édition où Nous avons notamment pu bénéficier du soutien des éditions Odile Jacob, très rapidement également une mise en ligne des conférences, de façon à permettre à un public débordant du seul public parisien qui aurait pu être mobilisé, donc débordant sur un public beaucoup plus large et permettant à un public plus important de participer à cette initiative. Au-delà de l'an 2000, Yves Michaud a su donner encore un plus grand retentissement à cette université qui donc existe depuis 10 ans maintenant, qui en est à sa 1000e conférence, qui s'est ancrée dans le territoire de notre pays tout entier et s'est très très largement ouvert sur le monde de l'éducation, ce qui est une chose tout à fait nécessaire. Donc nous nous sommes associés une nouvelle fois, Yves Michaud, l'université de tous les savoirs que préside Daniel Malingre et l'établissement public pour cette initiative nouvelle qui, je l'espère, va prospérer. C'est la première édition. J'espère que cette édition nous donnera aux uns et aux autres l'envie de continuer. Le thème que nous avons retenu pour cette première édition des Jeux de Paume est un thème qui me semble tout à fait central, celui finalement de l'observation de l'impact de toutes les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans l'exercice classique de la démocratie dans sa forme représentative. Cette démocratie représentative a été conçue dans un monde où il n'y avait pas de voiture, où il n'y avait pas de train, où il n'y avait pas de TGV, où il n'y avait pas d'avion, où il n'y avait pas de téléphone, où il n'y avait pas de radio, où il n'y avait pas de télévision, où il n'y avait pas Internet, et où donc les citoyens étaient loin les uns des autres. Et donc, ils ont conçu, voulant concourir collectivement à l'élaboration de la volonté générale, ils ont conçu des systèmes de représentation qui permettaient aux citoyens de déléguer à des élus leurs responsabilités à l'égard de la chose publique. Ces élus se réunissaient dans un lieu éloigné de toutes les parties du territoire et donc ensemble constituaient la volonté générale. L'opinion des citoyens, si naturellement elle disposait de moyens pour s'exprimer, la presse était naissante à ce moment-là, je parle de la fin du XVIIIe siècle, l'opinion des citoyens avait rarement prise sur l'expression de cette volonté, sauf peut-être dans le territoire parisien, puisque à Paris se retrouvait dans un même enclos géographique à la fois la représentation nationale et les citoyens eux-mêmes. C'est ce qui explique le caractère souvent houleux, souvent tendu entre la représentation nationale et la population parisienne. L'un des épisodes naturellement les plus terribles de cette confrontation est sans doute l'épisode de la Commune à la fin du XIXe siècle. Mais toujours est-il que ce système a fonctionné de façon équilibrée, de façon satisfaisante pendant, disons, plus d'un siècle, presque 2 siècles, jusqu'au moment, le moment où nous nous trouvons aujourd'hui, où finalement l'opinion des citoyens, leur possibilité d'interférer directement dans le débat politique et parfois dans la prise de décision politique peut finalement se manifester de façon immédiate, ce qui gomme les barrières du temps, peut se manifester où que se trouvent les citoyens, ce qui gomme les barrières de l'espace. Alors là, nous sommes dans une problématique qui, je le crois, je le sais, et vous le savez d'ailleurs aussi, est fondamentale pour l'avenir de la démocratie. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes cette année, pour ces premiers entretiens, fixés sur cette question-là. Permettez-moi simplement, parce qu'il ne m'appartient pas ce matin de monopoliser la parole, de saluer les orateurs de cette matinée. Dans un instant, Yves Michaud va me succéder à cette place pour vous présenter, si besoin était, Pierre Rosanvallon et Daniel Innerariti. Je suis d'origine béarnaise et donc vous savez qu'il existe entre les Béarnais et les Basques comme ça une vieille à la fois un vieux voisinage et une vieille, finalement, une vieille rivalité. Nous avons passé beaucoup de temps à nous faire des guerres dans les montagnes. Je vous salue tous qui avez pris la peine de venir en ce vendredi matin dans ce véritable temple républicain. Donc la Troisième République naissante, Troisième République, il ne faut pas l'oublier, est née, elle également, à Versailles, puisque l'amendement Vallon a été voté par le Sénat dans l'actuel Opéra Royal du château de Versailles, Opéra Royal qui avait été transformé en salle de délibération du Sénat pendant que l'Assemblée nationale occupait l'aile du midi du château de Versailles. Donc, une nouvelle fois, cette référence à une autre partie de l'histoire permet de mesurer à quel point Versailles a été au centre de l'histoire républicaine de notre pays. Toujours est-il que la Troisième République a souhaité transformer ce jeu de paume en un véritable temple républicain. C'est devenu une sorte d'église républicaine avec son autel, avec sa statuaire, avec ses saints, avec ses professions de foi, comme la délibération de la Convention nationale qui a déclaré que la ville de Versailles avait bien mérité de la patrie. Donc c'est un des hauts lieux de la vie civique de notre pays. Je vous rappelle d'ailleurs qu'au moment du bicentenaire de la Révolution française, le président François Mitterrand avait tenu à venir ici, qu'il y a prononcé un important discours. Donc Versailles, qu'on agrège très souvent au seul souvenir de l'Ancien Régime, et qui doit d'ailleurs beaucoup à l'Ancien Régime, il ne faut pas renier cette part-là de notre histoire, Versailles est également un grand moment de l'histoire de la République dans notre pays. Donc je souhaitais simplement vous le rappeler et saluer l'avènement de ces premiers entretiens, de ces entretiens du jeu de paume. Yves, veux-tu me succéder à cette place ?
Merci. Donc nous allons maintenant poursuivre cette séance d'ouverture en entrant directement maintenant dans les propositions de nos conférenciers. À ma gauche, Pierre-Rosan Vallon, qui va ouvrir la séance en nous parlant de repenser la légitimité démocratique. Et puis à ma droite, Daniel Inerariti, philosophe espagnol, basque. Espagnol basque, je crois que je peux dire comme ça, oui, sur l'élargissement mondial de la démocratie. Alors, je présente brièvement Pierre-Rosan Vallon, je présenterai Daniel Inerariti ensuite. Après leur communication, la parole sera à vous pour des questions et aussi éventuellement des questions qui nous parviendraient par Internet, puisque la séance est diffusée en direct. Alors, Pierre-Rosan Vallon est né en 1948. Il a été directeur de recherche à l'université Paris-9-Dauphine. Il est depuis 1989 directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Et il est, depuis 2001 surtout, c'est son titre à la fois le plus récent et le plus important, il est professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d'histoire moderne et contemporaine du politique. Ses ouvrages sont très nombreux, donc je n'en ferai pas une liste exhaustive, mais je citerai, je dirais au hasard de mes prédilections, « La crise de l'État-providence » de 1981, Le sacre du citoyen, le magistral ouvrage Histoire du suffrage universel en France de 1992, et puis plus récemment, je dirais, toute une série de livres sur les nouvelles formes de la démocratie aujourd'hui, Le modèle politique français de 2004, La contre-démocratie de 2006, La légitimité démocratique de 2008, et c'est pour cela qu'il m'a semblé qu'il était la personne toute désignée pour ouvrir ces premiers entretiens du jeu de paume sur la démocratie d'opinion du siècle des Lumières à la démocratie des courts-circuits. Je vais donc lui passer la parole. Ensuite, ce sera au tour de Daniel Inerariti et ensuite le temps des questions. Merci.
Je vous remercie de m'accueillir pour cette ouverture de vos entretiens. Pourquoi repenser la légitimité démocratique ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle est en crise. dans un double sens, la légitimité des institutions démocratiques et la légitimité des gouvernants démocratiques. Le symptôme de cette crise, qui se confond d'une certaine façon avec la crise du système représentatif auquel il était fait allusion tout à l'heure, se lit dans le déclin de la confiance dans les gouvernants et dans les institutions, qui est avéré par de nombreuses enquêtes, pas simplement en France d'ailleurs. Cette crise, ce déclin de la légitimité démocratique est un phénomène remarquable dans pratiquement l'ensemble des démocraties, avec peut-être quelques exceptions que je pourrais évoquer tout à l'heure. Pourquoi cette crise de la légitimité fait problème ? Eh bien, tout simplement parce que la légitimité est un principe de justification fondamental des régimes. La légitimité, selon la formule de Ferrero, ce sera ma référence aujourd'hui au 18 juin, puisque c'était un des historiens et des philosophes politiques préférés de De Gaulle, Ferrero disait qu'on doit considérer que la légitimité est le génie invisible de la cité. Génie invisible de la cité d'une double façon. La légitimité conditionne l'efficacité du pouvoir, tout d'abord. La légitimité, c'est ce qui permet d'obtenir la coopération des gouvernants dans un domaine particulièrement notable, celui des impôts, par exemple. Si un gouvernement n'est pas légitime, eh bien la capacité à donner l'impôt sera évidemment beaucoup plus faible. Et on voit que la fuite devant l'impôt a été, dans tous les pays, un bon indicateur du niveau de légitimité des régimes. De ce point de vue-là, on peut dire que la légitimité est un économiseur de contraintes. Cela rend les rapports entre les pouvoirs et les citoyens plus faciles. Les citoyens obéissent davantage au pouvoir et les pouvoirs sont capables d'avoir de l'obéissance des citoyens. Mais ce n'est pas simplement une possibilité d'efficacité du pouvoir qui déroule de la légitimité, c'est également ce qui conditionne la satisfaction des citoyens. La légitimité donne le sentiment d'accomplissement de l'idéal d'un pouvoir au service de la société. En ce sens, on peut dire que la légitimité est au cœur de l'action de tous les pouvoirs, mais que la légitimité est particulièrement au cœur du pouvoir démocratique dans la mesure où elle conditionne cet idéal d'accomplissement d'un pouvoir au service de la société. On peut dire de cette façon que la légitimité est une institution invisible. Et il y a plusieurs sortes d'institutions invisibles dans nos sociétés. Il y a trois grandes catégories d'institutions invisibles, pour resituer la question de la légitimité dans un ensemble plus vaste. Il y a la légitimité, il y a la confiance, et il y a l'autorité. Légitimité, confiance, autorité sont les trois grandes institutions invisibles qui aident au fonctionnement des sociétés. Quelques mots très rapidement sur chacune d'entre elles avant d'entrer dans le vif du sujet sur la légitimité. L'autorité, elle fonctionne tout simplement comme économiseur de coercition et économiseur d'argumentation. L'autorité, c'est ce qui permet de se faire obéir sans être obligé en permanence de s'expliquer, et c'est ce qui permet de se faire obéir sans la violence. Or, économiser de la coercition et économiser de l'argumentation, c'est évidemment ce qui rend beaucoup plus facile la vie sociale. Et donc, une société dans laquelle il y a de l'autorité est une société qui économise des institutions, est une société qui économise de la violence, est une société qui économise peut-être un certain nombre de discussions inutiles. On peut dire que l'autorité, de ce point de vue-là, se distingue très fortement du pouvoir. Le pouvoir ordinaire se fait obéir à travers des instances, se fait obéir à travers des puissances comme la police, alors que l'autorité, elle se fait obéir d'un certain point de vue parce qu'elle est fondée sur les principes organisateurs de la société. Et c'est ce qui permettait de dire, c'est une définition de Rousseau, que l'autorité doit être considérée comme une puissance indirecte. Toute une partie de l'œuvre de Rousseau, d'ailleurs, a été consacrée à réfléchir sur ce rapport entre les puissances directes et les puissances indirectes. Il allait même jusqu'à considérer que le rapport homme-femme était une façon de considérer la distinction entre le pouvoir direct et le pouvoir indirect. Les femmes possédant le pouvoir indirect et les hommes le pouvoir direct, disait-il. C'est un des grands thèmes, bien sûr, de l'Émile.
La deuxième catégorie d'autorité invisible, c'est la confiance. La confiance, là aussi, elle est un économiseur d'actions et d'institutions. La confiance, elle a une dimension cognitive, elle a une fonction d'aide à la gestion de la complexité. Si l'on fait confiance à quelqu'un, cela veut dire que l'on n'a pas besoin de faire tout un ensemble d'analyses, qu'on n'a pas besoin de prendre énormément d'informations sur lui, qu'on peut se reposer et donc économiser tout un ensemble de calculs, économiser tout un ensemble de raisonnements. Et la confiance, elle a aussi une dimension probabiliste. C'est ce qui permet de gérer l'incertitude et de la réduire, selon une formule célèbre. La confiance est une hypothèse sur un comportement futur. Donc faire confiance, comme l'autorité, ce sont des économiseurs de force, ce sont des économiseurs d'institutions. Et je crois que la légitimité doit être considérée comme la troisième grande catégorie d'institutions invisibles. Or, le problème des sociétés modernes, c'est que ces institutions invisibles, tout ensemble, déclinent en même temps la confiance, déclinent en même temps la légitimité et déclinent en même temps l'autorité. Il est donc urgent de trouver, sinon des équivalents à ces institutions invisibles, ou du moins de faire revivre ou de redonner force à ces institutions invisibles. Polarisons-nous, bien sûr, essentiellement aujourd'hui sur la question de la légitimité. D'où vient le déclin de la légitimité démocratique? Il vient, me semble-t-il, essentiellement du statut équivoque qu'a l'élection dans la démocratie. L'élection dans la démocratie mêle en effet deux principes fort différents. L'élection mêle un principe de justification et une technique de décision, ou une technique de nomination. Technique de décision et de nomination, l'élection l'est avec évidence. Mais le problème, c'est que l'assimilation de ces deux éléments, principe de justification et technique de décision, se sont de plus en plus dissociés. Se sont de plus en plus dissociés parce que on fait, du point de vue de la technique de décision, confiance au principe majoritaire, parce que le principe majoritaire est celui qui a une sorte d'évidence de la simplicité. Personne ne peut discuter le fait que 51 soit supérieur à 49. Et une des grandes fonctions de la démocratie, c'est de mettre fin aux discussions. C'est ce qu'on appelait la capacité d'ériger un pouvoir du dernier mot. L'élection, c'est le pouvoir du dernier mot. Quand il y a eu des controverses, elles trouvent leur clôture dans ce moment-là. Mais en même temps, on attend de l'élection aussi qu'elle justifie le pouvoir et qu'elle le justifie non pas simplement dans l'instant, mais qu'elle le légitime dans la durée. De cette façon, il y a un peu une contradiction dans la démocratie entre le fait que, en tant qu'élection, la technique de décision ou la technique de nomination repose sur le principe majoritaire, alors que le principe de justification repose beaucoup plus sur une notion d'unanimité, sur la notion d'intérêt général, sur la notion de volonté générale. Or, on ne peut pas assimiler volonté générale, intérêt général simplement, au pouvoir majoritaire. Et on peut même dire que c'est l'horizon de l'unanimité qui, philosophiquement, a sous-tendu, dès l'origine, l'idée démocratique. La majorité n'est qu'une convention pour exprimer l'unanimité. Il y a là-bas le buste de Sieyès, c'était une de ses grandes théories. Voilà le problème de l'élection démocratique. On fait comme si le plus grand nombre valait pour la totalité. On fait comme si c'était acceptable d'approcher une exigence plus forte. Première assimilation qui se double d'une seconde, l'identification de la nature d'un pouvoir à ses conditions d'établissement. La partie valant pour le tout, la majorité valant pour l'unanimité, et le moment électoral valant pour la durée du mandat, tels ont été les deux présupposés sur lesquels était assise la légitimité d'un régime démocratique. On peut dire de cette façon-là que le régime démocratique repose sur une double fiction. Fiction de l'assimilation de la majorité à la totalité de la société et fiction de l'assimilation du moment électoral à la totalité du mandat. fiction qui est vite apparue comme l'expression d'une insupportable approximation, d'où le désenchantement démocratique qui est partie intégrante de l'histoire de la démocratie. En effet, c'est dès septembre 1789 que l'on voit exprimer, ici même et dans d'autres lieux, la crainte que les représentants confisquent la représentation. Et l'idée que la démocratie est à la fois un bien précieux mais un bien toujours menacé a été présente dès l'origine de son histoire. C'est pour cela que la démocratie ne peut pas être comprise comme un modèle, mais doit être comprise comme une expérience. Pour surmonter les problèmes nés du constat de cette fiction, le désenchantement démocratique qui a traversé toute l'histoire du XIXe siècle et de la Révolution française, il y a eu deux moyens qui ont été employés pour essayer de le surmonter. D'abord, essayer d'améliorer l'opération électorale, essayer d'enrichir l'opération électorale. Comment ? Eh bien, en bâtissant des programmes, en trouvant le moyen de lier davantage le représentant et le représenté, de faire en sorte que dans ce travail, il y ait une exigence de lien à la société plus fort. Et au moment où s'étend le suffrage universel dans le monde, à la fin du XIXe siècle, on voit toute une floraison d'expériences, notamment aux États-Unis, qui ont essayé d'enrichir le moment électoral. C'est la période, à la fin du XIXe siècle, où en Amérique, on invente, en tout cas dans les États de l'Ouest, on invente le référendum, on invente les primaires, on invente le recall, c'est-à-dire le droit de renvoyer un élu dont on pense qu'il a trahi son mandat ou qu'il assume mal sa fonction. Donc il y a eu tout un ensemble d'expérimentations pour améliorer la notion de représentation. Expérimentations qui sont intimement liées à l'histoire même de la démocratie et qui vont prendre le visage, à la fin du XIXe siècle, de la naissance des partis politiques comme moyen de réguler le mandat à l'intérieur d'un programme garanti en quelque sorte par la stabilité d'une organisation permanente et qui ne laissera pas donc l'élu simplement face à son élection, mais qui encadrera l'ensemble des promesses qu'il a pu faire et qui l'assurera d'une certaine façon dans la durée. Mais il y a eu une deuxième façon au XIXe siècle, d'essayer de donner consistance, de redonner consistance à la légitimité, c'est d'organiser une certaine dualité démocratique. À côté des institutions représentatives élues, de développer un pouvoir représentant substantiellement l'intérêt général. Ce pouvoir représentant substantiellement l'intérêt général, c'est l'administration publique. Et s'est développé, surtout à partir de la fin du XIXe siècle, en France bien sûr, aux États-Unis, en Angleterre et dans d'autres pays, une administration conçue sur le mode, pour reprendre une formule sociologique célèbre, d'un corporatisme de l'intérêt général. C'est-à-dire l'intérêt général défini d'une façon substantielle et non plus défini d'une façon procédurale comme dans le cadre de l'élection. Donc concevoir la démocratie avec des formes procédurales mais aussi avec des formes substantielles. Un célèbre socialiste du XIXe siècle, Constantin Pecker, qui admirait beaucoup Marx, disait au fond, pour que la démocratie fonctionne, il faut à la fois qu'il y ait des élections politiques et des élections intellectuelles de capacité. La capacité montrant la possibilité qu'un corps, justement, soit fidèle à son mandat de service de l'intérêt général, et l'élection assurant, en quelque sorte, de façon visible, le lien entre pouvoir politique et société. Et d'un certain point de vue, le premier groupe social qui était chargé de représenter ce corporatisme de l'intérêt général, ce sont les professeurs d'université à travers une loi de 1896. On leur a donné un statut en disant qu'ils étaient les gardiens, en quelque sorte, de l'enseignement public, qu'ils étaient les gardiens du bien général dans ce domaine-là. Le grand problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est que cette dualité démocratique entre des institutions de l'intérêt général à travers l'administration publique, conçue comme devant aller vers une forme de corporatisme de l'intérêt général, et l'élection ne fonctionne plus, pour deux raisons. Le sens de l'élection, tout d'abord, a changé de nature. L'élection, elle est devenue tout simplement nomination des gouvernants. Si l'électeur est devenu plus stratège, Si les partis politiques se sont affaiblis, ça veut dire que l'élection vaut de moins en moins comme mandat. L'élection, elle vaut de plus en plus simplement comme un processus de désignation. Alors qu'autrefois, l'élection avait réussi, en quelque sorte, à travers l'organisation partisane, à travers les conditions de mobilisation du mandat, à enrichir, je dirais, cette simple dimension de désignation. D'un autre côté, nous constatons aujourd'hui qu'il y a un divorce croissant entre le moment électoral et la vie politique au sens plus large du terme. Divorce qui correspond tout simplement à un divorce des qualités qui sont nécessaires pour mener une campagne électorale et pour gouverner. On peut dire que les qualités les plus valorisées au moment de l'élection, ce sont des qualités de proximité. Ce sont des qualités d'identification entre gouvernés et gouvernants. Alors que dans l'exercice du pouvoir, les qualités les plus valorisées sont des qualités de capacité. Et donc on voit une sorte de divorce dans le monde politique entre des personnes qui excellent dans les qualités de proximité et d'identité, mais qui s'avèrent décevantes dans les qualités de capacité gouvernementale à décider, par exemple. Et je crois que la vie politique aujourd'hui est structurée par le fait que les excellents candidats ne sont plus d'excellents gouvernants. Et que même l'exemple américain pourrait être très intéressant à analyser de ce point de vue-là. Il y a aussi le déclin de l'administration publique comme représentant ce qu'on appelait l'État jacobin bienveillant. L'État jacobin bienveillant, c'est une formule d'économiste. Cet État jacobin bienveillant, eh bien, le paradoxe aujourd'hui, c'est que la sociologie critique, disons à la Bourdieu, a retrouvé la critique économique libérale. La sociologie critique disait condamner les illusions du désintéressement en disant derrière les prétentions à représenter l'intérêt général, en fait, il y a des intérêts de type corporatiste. Et aujourd'hui, c'est la critique économique libérale à travers toute la théorie des incitations ou toute la théorie des captations qui montre très souvent que c'est un corporatisme négatif qui se cache derrière la prétention au corporatisme de l'universel. Et que derrière les grandes promesses qu'avaient essayé de dessiner des juristes comme Duguay, Horiot ou même Saleil, eh bien c'est tout simplement une bureaucratie beaucoup plus modeste et beaucoup moins glorieuse qui s'est mise en place. Mais il y a aussi, à côté de ces raisons tenant à la nature de l'élection, aux qualités des gouvernants, aux conditions de déclin de l'État jacobien bienveillant, aussi un autre facteur qui explique pourquoi cet équilibre démocratique entre administration publique et élection démocratique s'est dégradé. C'est tout simplement parce que la notion de majorité a changé de sens. La notion de majorité reste bien sûr toujours très clairement définie d'un point de vue politique dans le processus électoral. Mais l'intérêt du grand nombre peut de moins en moins être assimilé à celui de la majorité. Le peuple, en effet, s'appréhende beaucoup moins que par le passé comme une masse homogène. Il s'appréhende beaucoup plus comme une succession d'histoires singulières, une addition de situations spécifiques. Et c'est pour cela qu'en sociologie, on dit aujourd'hui que c'est la sociologie de Gabriel Tarde ou la sociologie de Simmel et non plus celle de Durkheim qui permet de comprendre le monde moderne. La minorité n'est plus la petite part qui devrait s'incliner devant la grande part. La minorité est devenue aujourd'hui une des multiples expressions diffractées de la totalité sociale. On peut même dire que la société se manifeste aujourd'hui de plus en plus sous les espèces d'une vaste déclinaison des conditions minoritaires. Peuple est désormais aussi le pluriel du mot minorité. Comment, sur la base de l'analyse de ce déclin de la légitimité, refonder, repenser la légitimité des institutions démocratiques ? Refondation qui est absolument nécessaire pour des raisons d'efficacité du pouvoir et pour des raisons de qualité de la vie démocratique. Comment, tout simplement, en essayant de redonner un caractère plus marqué de généralité au-delà de la majorité aux institutions. Car on peut dire que, et démocratique, une institution qui exprime la généralité sociale. Or, quels sont les moyens d'exprimer la généralité sociale ? Le vote est un moyen agrégatif d'exprimer la généralité sociale. La généralité sociale est exprimée par une addition qui marque une certaine quantité. Mais il y a d'autres moyens d'exprimer la généralité sociale. Il y en a au moins deux autres. Un autre moyen d'exprimer la généralité sociale, c'est de l'exprimer par le détachement des particularités, par la distance raisonnée et organisée vis-à-vis des différentes parties impliquées dans une question. C'est définir une forme de généralité négative. On va définir la qualité démocratique comme le fait que personne ne peut s'approprier un pouvoir. La généralité agrégative essaie de le définir comme un pouvoir auquel contribue le plus grand nombre. Mais comme le plus grand nombre n'est jamais la totalité, une autre façon de définir la généralité, c'est un pouvoir que personne ne peut s'approprier. C'est définir de ce point de vue-là la vie démocratique à la fois comme un pouvoir plein, celui de l'expression sociale, mais comme un pouvoir vide que personne ne peut s'approprier. C'est une expression, concevoir la démocratie comme un pouvoir occupant un lieu vide, c'est une expression fameuse du philosophe politique Claude Lefort. On peut dire de ce point de vue-là que la légitimité va être définie comme une légitimité d'impartialité. C'est le fait que personne ne peut mettre la main d'une certaine façon sur le pouvoir. Et nous verrons qu'il y a un certain nombre de tentatives ou d'illustrations de ce type de légitimité par impartialité. Une troisième façon, c'est de considérer qu'il faut pluraliser les expressions de la souveraineté sociale. Qu'un des grands problèmes de la démocratie, c'est qu'aucune procédure n'épuise en quelque sorte le capital démocratique. Aucune procédure n'épuise l'expression démocratique, pour deux raisons. Parce que le peuple est multiple, d'un point de vue sociologique donc, et du point de vue des temporalités également. La démocratie n'est pas simplement un art de prendre des décisions, la démocratie est un moyen d'exprimer une volonté. La décision est instantanée, mais la volonté, elle ne s'exprime que dans la durée. Si la démocratie n'était que le fait de prendre des décisions, alors on pourrait dire, il y aura une séance qui sera consacrée à ce point-là, qu'Internet est le moyen de prendre des centaines de décisions collectives tous les soirs. Mais la démocratie, ce n'est pas simplement un art de prendre des décisions, c'est un art de former une volonté collective, donc de la former dans le temps. Elle n'est pas simplement, pour reprendre une formule célèbre, un caprice de l'instant. Mais le sujet, le peuple, il est aussi multiple. Il est multiple parce que s'il y a l'évidence du peuple électoral, il y a au moins aussi le peuple social. Le peuple social qui prend forme et qui prend vie dans les épreuves de la vie sociale. Le peuple social qui s'exprime à travers des événements, des circonstances particulières. Dualité entre le peuple électoral et le peuple social qui a longtemps été celle de la dualité entre le monde des syndicats, par exemple, et le monde des partis politiques. Mais il y a également ce que je pourrais appeler le peuple-principe, c'est-à-dire le peuple qui n'est pas simplement défini en termes sociologiques, mais qui est défini par les principes qu'il organise. Ce peuple-principe, il est défini par les droits qui le composent. De ce point de vue-là, on peut dire que la légitimité va être une légitimité de pluralisation, je l'appelle une légitimité de réflexivité. Donc, il faut trouver dans le monde démocratique moderne, à côté de l'expression électorale, il faut trouver d'autres moyens d'expression de la généralité démocratique. Ces moyens d'expression de la généralité démocratique à travers les formes de l'impartialité et les formes de la réflexivité. Ce qui va à l'encontre de toute la vision tocquevillienne de la démocratie. L'idée de Tocqueville, c'était que les démocraties allaient se simplifier, que la vie des démocraties, elles étaient tout entières tendues vers l'arithmétique, disait-il. Eh bien non, on voit au contraire que les démocraties, elles se compliquent de plus en plus. Et que de fait, sont apparus de nouveaux types d'institutions démocratiques représentant ces dimensions de l'impartialité et ces dimensions de la réflexivité. Le premier exemple d'institution impartiale, il est très intéressant de le rappeler, c'est l'Interstate Commerce Commission aux États-Unis. Pourquoi ? Interstate Commerce Commission, en 1887, c'est une, une institution indépendante de régulation des chemins de fer. Et pourquoi a-t-elle été mise en place? Parce que le président Harrison avait été grand avocat des compagnies de chemin de fer. Donc on se disait, un président grand avocat des compagnies de chemin de fer, l'action de son gouvernement risque d'être biaisée. Et donc, dans certains cas, il faut pouvoir dessaisir le pouvoir si l'on le suspecte de partialité pour que ce soit une institution à côté du pouvoir élu, complémentaire, qui ait en charge ce domaine de l'action publique. Je peux prendre un autre exemple. En France, la première institution indépendante, un siècle plus tard, c'est la Commission nationale informatique et liberté, 1978. D'où vient-elle? C'est tout simplement le fait qu'il y avait un grand projet d'interconnexion de tous les fichiers, que ce soit les fichiers de sécurité sociale, les fichiers INSEE, les fichiers de police, etc. Et bien des personnes à gauche s'étaient émues en disant « mais il y a un risque de surveillance sociale généralisée ». Et l'attaque contre le gouvernement Barr avait été extrêmement forte à ce moment-là, et le gouvernement avait dû céder en disant « pour preuve de notre bonne volonté, nous acceptons de ne plus gérer nous-mêmes cette question, que ce ne soit pas un ministère qui la gère, mais une autorité indépendante ». Un troisième exemple, dans de nombreux pays du tiers-monde, il y a des conflits très forts au moment de l'organisation des élections sur les conditions du découpage électoral, par exemple. Et bien, dans de nombreux pays du tiers-monde, depuis une vingtaine d'années, c'est relativement récent, bien mise en place de commissions électorales indépendantes. Ce sont des commissions électorales qui sont chargées de faire le découpage électoral et non pas le gouvernement en place. Chose que nous n'avons d'ailleurs pas en France, mais qu'un certain nombre de pays ont. Il faut d'ailleurs rappeler que si le général de Gaulle a mis en place le Conseil constitutionnel, c'était afin que les vérifications de mandat ne soient plus effectuées par le Parlement lui-même. Parce que jusqu'en 1958, c'est le Parlement élu qui, dans sa première séance, votait la régularisation des élections. Alors évidemment, la majorité avait une certaine tendance à régulariser les élections de ses membres, à pouvoir invalider les élections de ses ennemis. Et de Gaulle avait dit le Conseil constitutionnel... Le Conseil constitutionnel aura pour fonction, il le voyait comme une de ses fonctions essentielles, la validation électorale contre justement le pouvoir parlementaire. Donc je dirais que les institutions de l'impartialité, sans qu'elles aient été véritablement répondues à un plan d'ensemble, elles se sont développées dans presque tous les pays. Il y en a une quarantaine en France, mais sans que ça ait été pensé. C'était le résultat en quelque sorte de la pression sociale, en voyant lorsqu'il y avait le pouvoir suspecté, eh bien, on créait une autorité indépendante. C'était le cas en France, on semble faire marche arrière actuellement, lorsqu'on a mis en place la haute autorité de l'audiovisuel au début du premier septennat de François Mitterrand. Et dans tous les pays, nous voyons ce paradoxe aujourd'hui, c'est que ce nombre d'institutions correspond d'une certaine façon à une demande sociale d'impartialité et se multiplie, mais sans qu'elles aient été théorisées dans la démocratie. Et ce sont très souvent les parlements eux-mêmes qui les mettent en place, et les parlements eux-mêmes se sentent obligés de les mettre en place et en même temps ne cessent de dire qu'ils considèrent que ces institutions sont problématiques. Voir le récent rapport Gélard, le sénateur Gélard, qui est très intéressant de ce point de vue-là. Du point de vue de la légitimité par réflexivité, eh bien la grande institution phare, pour l'instant, il y en a d'autres, mais c'est la plus importante, ce sont les cours constitutionnels. Parce qu'une cour constitutionnelle, elle est en quelque sorte le représentant du long terme. Elle représente les intérêts organisateurs de la société tels qu'ils sont consignés dans une constitution. Alors bien sûr, s'il y a un conflit, on peut toujours changer la constitution. On peut toujours changer la constitution par référendum. On peut toujours changer la constitution en réunissant un congrès. Il faut voir aussi que les conditions de révision des constitutions sont très différentes d'un pays à l'autre. Elles sont très difficiles aux États-Unis, par exemple, et relativement plus faciles en France. Cela veut bien dire que lorsqu'il y a une controverse, c'est toujours le pouvoir arithmétique qui doit l'emporter. Le pouvoir arithmétique et le pouvoir électoral, parce qu'il est le seul indiscutable. Si on veut discuter du juste et du bien, il y a toujours possibilité de controverse. Mais l'arithmétique simplifie toutes les controverses. C'est pour ça que c'est le pouvoir régulateur dans les sociétés. Le problème, justement, c'est que ces institutions, autorités indépendantes, cours constitutionnelles, commissions électorales, quelle que soit leur dénomination, institution productrice d'une légitimité, d'impartialité ou de réflexivité, n'ont pas été théorisées pour l'instant et pleinement conçues comme des institutions démocratiques. Et c'est, me semble-t-il, la tâche qu'il faut faire. Aux États-Unis, dans le droit, on les appelle les institutions contre-majoritaires à cause de cette origine. Et la question est la suivante. Peut-on être légitime si l'on n'est pas élu ? Eh bien, je pense qu'il faut expliquer pourquoi on peut être légitime si on n'est pas élu, mais à quelles conditions. L'élection, elle donne un statut. On peut dire que la légitimité de celui qui est élu, elle est définie par un statut. Et quelle que soit son action, le statut reste valable. On est élu pendant la durée du mandat. Que l'on fasse une action hautement controversée, que l'on descende à 10% dans les sondages, peu importe. On a le même statut de légitimité. On peut avoir perdu la confiance de ses concitoyens, mais on a un statut qui fait que l'on est fondé à continuer à exercer le pouvoir. Lorsque l'on n'est pas élu, mais lorsqu'on est nommé, la grande différence à ce moment-là, c'est que la légitimité, elle est de l'ordre d'une qualité. C'est-à-dire que la légitimité, elle doit être prouvée en permanence. Elle n'est jamais acquise comme l'est un statut. Elle doit toujours être manifestée. C'est le problème qui se pose, par exemple, avec l'évolution d'un certain nombre de cours constitutionnelles. Une cour constitutionnelle qui apparaîtrait partisane, elle perdrait toute sa crédibilité. Et perdant sa crédibilité, c'est son action même qui finirait par être nécessairement remise en cause. Et pourquoi faut-il dissocier dans la démocratie les institutions qui ont un statut démocratique et les institutions qui ont une qualité démocratique ? Eh bien parce qu'effectivement, elles sont différentes. Elles sont différentes et on a même des expérimentations qui ont été faites de la nécessité de lier ces deux pouvoirs. Dans les constitutions américaines en 1776, on faisait le rapport, par exemple, entre l'élection de gouvernants et l'élection de contrôleurs. Mais on a vu que si les contrôleurs et les gouvernants obéissaient aux mêmes procédures de nomination, ils suivaient une politisation de même nature. Et donc, il fallait au contraire dissocier des gouvernants élus et des contrôleurs nommés. Mais nommés comment ? Eh bien, c'est là toute la discussion qui était très riche aux États-Unis, par exemple. Est-ce qu'il faut que ce soit des nominations bipartisanes ? Est-ce que ça doit être des nominations qui procèdent de personnes venant de la société civile ? Est-ce que ça doit être des nominations qui sont représentatives des différents intérêts ? Par exemple, la Banque fédérale américaine a dans son conseil d'administration des personnes représentantes des différentes professions. Et il y a eu très régulièrement d'ailleurs des grands débats pour savoir s'il devait y avoir des agriculteurs, par exemple, ce qui était le cas à la fin du 19e siècle, qui venaient siéger à la banque centrale. Et aussi, c'est démocratique parce que la représentation ne procède pas simplement du mandat. Le mandat est une forme de représentation, mais il y a d'autres formes de représentation que le mandat. Notamment une représentation, je dirais, qu'on pourrait qualifier de cognitive, une représentation des problèmes. Si l'on regarde un syndicat n'a pas véritablement la loi d'ailleurs. La loi lui donne un caractère représentatif sur une base essentialiste et non pas simplement sur une base électorale. Le syndicat a un caractère représentatif, en fonction même de tous les critères de 1945, parce qu'il est l'expression des problèmes. Donc c'est exprimer des problèmes qui lui donne son caractère représentatif. Et ce n'est pas l'élection. On peut même dire que, de façon problématique, toute la législation sociale des lois Auroux a été à l'extrême de cela. Parce qu'un syndicat peut être représentatif dans l'entreprise sans avoir un seul adhérent. Il est représentant ex-qualité. Donc là, on était, au plus loin de la dissociation entre la représentation liée à un statut et liée à une qualité, la représentation procédurale et substantielle. Le syndicat ayant été dans l'histoire le champion, si je puis dire, de la représentation substantielle. Mais on voit aussi qu'il y a d'autres façons d'incarner aujourd'hui cette représentation substantielle. Et c'est ce qui se recherche à travers ces élections. La grande question est de dire, mais alors il y a beaucoup de débats, mais très nécessaire de les développer, sur quelles sont les conditions les meilleures de nomination ces représentants qui vont être membres d'institutions d'impartialité ou qui vont être membres d'institutions de réflexivité. Une question souvent posée, elle était d'ailleurs dans la Révolution française de façon fameuse, c'est qui gardera les gardiens ? Qui gardera les gardiens s'il y a les contrôleurs, mais les contrôleurs, qui va les contrôler ? Ça ne va pas devenir un pouvoir autonome, un pouvoir qui va dériver. Il y a toujours, c'est très simple, une boucle de contrôle, c'est que le dernier mot, il est toujours à l'arithmétique démocratique. Donc le dernier mot est toujours à l'arithmétique démocratique, sinon le système ne peut pas fonctionner, mais ce sont disons, des boucles de contrôle et pas des formes de contrôle immédiat. Cela montre que réfléchir le caractère démocratique de ces nouvelles institutions, et pas simplement le réfléchir, leur donner un caractère plus démocratique, parce qu'on voit bien que dans le cas français, le Conseil constitutionnel, il faut qu'il soit redéfini avec des modes de nomination qui soient plus exigeants. On voit bien qu'un certain nombre de commissions indépendantes, elles-mêmes, doivent revoir la définition de leur mode de nomination. Mais qu'on ne peut le faire qu'en considérant qu'il y a toujours dans la démocratie, pourrait-on dire, maintenant une dualité. C'est que toutes les institutions démocratiques, elles sont en même temps des possibilités de progrès et des dangers de perversion. Derrière l'impartialité, il peut y avoir tout simplement un nouveau pouvoir technocratique. Il peut y avoir simplement un pouvoir de sage autoproclamé. Mais en même temps, il y a une virtualité démocratique très forte. Et la démocratie, ben justement, c'est le type de régime qui se pose en permanence la question la validité des institutions qui se met en place. La démocratie, c'est le régime de la discussion permanente sur sa qualité et son fonctionnement. C'est pour cela qu'on ne peut pas séparer la discussion sur l'approfondissement des institutions démocratiques, le développement de nouvelles formes de légitimité et la délibération permanente sur la démocratie. La délibération permanente sur la démocratie est inséparable de son progrès, car c'est cette délibération permanente qui conditionne la vision de la ligne de partage entre ses progrès et ses régressions, ses possibilités et ses problèmes. Et s'il faut le faire, c'est qu'au fond, il est nécessaire de développer ce que j'appellerais une sorte de dualisme démocratique. Qu'il faut que dans toute démocratie, il y ait des institutions de la majorité et dans toute démocratie, des institutions de l'unanimité. C'est une grande illusion de penser que l'on peut obtenir un consensus sur tous les sujets. La démocratie, c'est aussi le régime qui doit trancher. La démocratie, c'est aussi le régime qui doit arbitrer. Le régime, c'est aussi la démocratie qui doit choisir entre des groupes. C'est d'ailleurs ce qui faisait, en quelque sorte, dans la Grèce ancienne, presque peur dans le mot démocratie. C'est quand dans la notion du verbe kratein, il y a aussi la notion de l'emporter sur un autre. Ce n'est pas simplement le pouvoir de gestion, simplement assemblé. C'est l'emporter sur un autre. Et c'est pour ça que la démocratie a fait peur. Cette dimension de la démocratie comme un pouvoir qui tranche, et le pouvoir majoritaire doit être compris de cette fonction-là. C'est une dimension démocratique fondamentale. Mais il faut aussi qu'il y ait une autre dimension dans les démocraties, une dimension qui soit justement celle de l'unanimité, une dimension qui soit davantage celle du consensus. Et il faut des institutions du consensus et des institutions du dissensus. Et la grande procédure du dissensus nécessaire, c'est celle de l'élection, mais il faut aussi des institutions et des procédures du consensus. Faire en même temps vivre l'un et l'autre. Bien sûr, la ligne de partage entre les deux, elle est toujours délicate. Je ne prends qu'un exemple qui est dans l'actualité, c'est celui des banques centrales. Est-ce que les banques centrales doivent être considérées comme des institutions indépendantes, donc des institutions du consensus, ou des institutions menant une politique économique et donc susceptibles de visions très différentes, des institutions du dissensus? Eh bien, on peut dire que ce n'est pas du tout la même vision selon l'histoire des pays. En Allemagne, qui a connu l'hyperinflation, en Allemagne, la monnaie, elle fait partie du contrat social. Et si la monnaie fait partie du contrat social, ça doit vraiment être une institution du consensus, une institution de l'unanimité. Dans d'autres pays européens, on considère davantage que c'est de l'ordre de la politique économique, d'où tous les débats qu'il y a eu en Europe sur le statut de la Banque européenne. Mais je crois que cela nous montre que la démocratie, je termine sur ce point, la démocratie, elle progresse en se compliquant. Elle progresse en se compliquant et non pas en se simplifiant. Or, aujourd'hui, dans le monde moderne, les puissances de simplification de la démocratie sont fortement à l'œuvre. Quand on voit Poutine définir, par exemple, ce qu'il appelle la théorie de la démocratie souveraine, c'est un hyper-électoralisme. Lorsque l'on voit Chavez définir ce qu'il appelle la démocratie populaire, c'est un hyper-électoralisme. Aujourd'hui, ce qui menace la démocratie, c'est aussi une sorte d'hyper-électoralisme fortement manipulé. C'est pour cela qu'entre le combat du libéral... Autrefois, seuls les libéraux disaient qu'il fallait compliquer la démocratie. Mais ils voulaient compliquer la démocratie, si je puis dire, pour l'amoindrir. Aujourd'hui, il faut compliquer la démocratie pour la reconstruire, la développer, car ce développement, il n'est jamais achevé. La démocratie, ça n'est pas un bien que nous possédons. La démocratie, c'est quelque chose que nous devons encore construire. Je vous remercie de votre attention.